Le journal Josette Sédoux, bonsoir.
Bonsoir. C'est un fléau dans les écoles de la région aussi. Le harcèlement était le thème d'une conférence à Saint-Imier. Immense succès d'ailleurs. La thérapeute à l'origine de cette conférence se focalise sur l'enfant victime. Elle nous explique pourquoi. À Bienne, le pont de la Suze porte la place centrale depuis 120 ans et il faudra le rénover. Alors pourra-t-on encore marcher sur cette place biennoise pendant les travaux? On en parle tout de suite. Plus d'Elon Musk et moins de bureaucratie fédérale, formule choc du président de l'UDC suisse Marcel Dettling. Il veut couper, mais dans quel domaine? On fait le point. Météo, encore de la grisaille en pleine demain et sinon le ciel sera assez dégagé sur les hauteurs. Et puis un brouillard présent jusqu'à 900 mètres, c'est ce qu'on peut compter. Demain, il sera encore tenace. Le harcèlement scolaire, c'est un fléau aussi chez nous. En 2023, et selon l'enquête PISA, près de 20% des enfants de 15 ans avouent avoir subi des moqueries. Un phénomène qui peut mener à de véritables drames. Mercredi, la thérapeute française Emmanuelle Piquet a fait sale comble à Saint-Imier. Sa méthode se concentre sur l'enfant victime et non pas sur le harceleur, comme c'est parfois le cas. On écoute Emmanuelle Piquet nous expliquer pourquoi.
Il y a une idée qui circule comme ça un peu partout et qui est que l'enfant harceleur souffre du harcèlement, c'est un enfant qui souffre. Et les études prouvent de façon très claire que c'est une petite minorité d'enfants harceleurs qui souffrent. La grande majorité des enfants harceleurs sont plutôt des enfants qui vont bien, qui sont plutôt des gamins sympas avec leurs amis par exemple, plutôt sympas avec leurs profs, avec leurs parents. C'est des enfants qui vont bien en fait. Et donc eux ne sont pas en souffrance. Quand on n'est pas en souffrance dans une situation, on n'a pas envie que cette situation change. En fait, tout ça est très logique. Au moment où il harcèle, l'enfant harcelant ne souffre pas du tout. Il est dans une émotion de plaisir pur. Le plaisir lié à sa toute-puissance, à l'impact qu'il a considérable sur le destin de quelqu'un d'autre, ce qui narcissiquement est très bon, en tout cas en termes de sensations. Par ailleurs, il se sécurise par rapport à d'éventuels faits de harcèlement qui pourraient le concerner. Donc lui n'a aucun intérêt à ce qu'il change. Donc moi je trouve que c'est du temps perdu en fait d'essayer de le convaincre de ça. Et c'est ce que prouvent les chiffres, puisque depuis qu'on met en place quand même depuis une petite dizaine d'années maintenant, beaucoup de méthodes dans ce sens-là, qui visent à créer de l'empathie chez lui, les chiffres restent dramatiquement stagnants.
L'entourage joue un rôle primordial dans la détection de cas de harcèlement. En cas de doute, même de micro-doute, Emmanuelle Piquet encourage les proches ou les enseignants à aborder le sujet avec l'enfant victime, mais de manière très confidentielle pour éviter que la situation ne s'envenime. Économiser sans augmenter les impôts, c'était l'objectif du conseil municipal de Saint-Imier mardi dernier, après le refus du budget 2025 par la population dimanche passé. D'autres mesures ont été décidées mardi pour combler ce déficit qui est actuellement à 3 millions de francs. Entre autres, l'ajournement de certains projets, la vente du patrimoine financier ou encore la diminution de 10% du montant des charges dans chaque compte où c'est possible. Corentin Jeanneret, maire de Saint-Imier, explique pourquoi il est important de combler ce déficit.
Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que à partir d'un certain moment, la commune ne sera plus en capacité de décider pour elle-même si on est dans une situation critique. Et ça, on souhaite à tout prix l'éviter au sein des autorités. C'est pour ça qu'on prend des mesures fortes maintenant et sur les prochaines années pour qu'on puisse redresser la barre, finalement, corriger le tir et puis pour qu'on puisse décider nous. Parce que si ça devait être le canton qui devait décider pour nous, toutes les tâches non obligatoires seraient tracées très rapidement et on aurait pas un autre mot à dire, tandis que maintenant, on a encore notre destin entre les mains et on peut encore infléchir la tendance et en prenant les décisions que nous, on souhaite prendre ici à Saint-Imier. C'est pas des gens de l'extérieur qui viennent décider et qui coupent tout. Et c'est pour ça que c'est important pour les autorités de mettre ça en place maintenant et de le faire déjà dans le cadre du budget 2025.
Le conseil municipal de Saint-Imier souhaite faire passer le nouveau budget à la commission des finances le 16 décembre prochain pour que le conseil de ville puisse se prononcer en janvier 2025. La cité ceylandaise possède plus de 70 ponts qui sont à surveiller régulièrement. Justement, des inspections ont révélé des dégâts de corrosion pour le pont de la Suze qui supporte la place centrale depuis 120 ans. Le conseil de ville doit se prononcer en décembre sur un crédit d'engagement de 4,5 millions de francs pour le remettre en état. Roger Racourdon est responsable des infrastructures de la ville de Bienne. Il nous explique s'il sera possible de continuer à emprunter le pont de la Suze si les travaux de réfection sont acceptés. On écoute Roger Racourdon.
C'est vrai que les travaux sont assez importants, mais on doit garantir qu'il y a toujours le passage des transports publics, des piétons et de la mobilité douce. Par contre, pour les événements et puis le passage des voitures, là, il y aura des restrictions et puis le passage devra se faire ailleurs.
Et donc aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes ?
On vient de recevoir l'octroi du permis de construire. Le côté technique, on est bon, on peut commencer. Côté financier, c'est le conseil de ville qui va décider au mois de décembre sur le crédit d'assainissement. Et puis une fois ça, s'ils accordent le montant nécessaire, on va commencer avec les travaux préparatoires au mois de janvier déjà, pour une durée de 2 ans.
Roger Raccordon était au micro de Manon Becker. À Reconvilliers, les habitants ont pu découvrir un nouveau parc à l'ouest de la gare, un petit espace convivial avec des bancs et des arbustes installés par la commune. Il y a aussi un marronnier qui est offert par une habitante du village. L'allée Henri-Louis Favre est inaugurée ce soir en présence de la préfète du Jura bernois. Un petit espace qui reçoit une grande attention, mais parce que ça a du sens dans une commune. Pascale Beuclair, conseillère municipale à Reconvilliers.
C'est avant tout un lieu de rencontre pour la population et puis au centre du village, quoi de mieux. C'est ça un peu qui a permis, quand on a rénové le parc, d'en faire une jolie petite zone où tout le monde peut se retrouver.
Vous avez décidé de le nommer en hommage à Monsieur Henri-Louis Favre. Pourquoi ?
Alors Henri-Louis Favre a été une personne très très engagée de la commune de Reconvilliers. Il a été notamment directeur de l'école secondaire avant de devenir maire de Reconvilliers. Puis il s'est engagé au niveau cantonal, il a été député, il a été conseiller d'État et président du Conseil d'État. Donc ça nous paraissait évident qu'une personne qui s'est autant engagée pour la communauté mérite d'être honorée.
Et du coup, lui, il a de la descendance qui sera donc présente aussi ce soir ?
Alors, ses deux filles seront présentes avec leurs enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants seront là aussi.
Le parc à Reconvilliers aura droit à une illumination de Noël offerte par l'Union des commerçants, inaugurée ce dimanche à 17h. L'enquête est close. Un homme qui a commis 30 infractions dans le canton de Berne devra répondre de ses actes devant la justice. 30 délits, dont plusieurs vols avec effraction commis dans des voitures à Peterlund, c'était en avril. La police a pu faire le lien entre cet individu de 32 ans et plusieurs affaires de vol dans le canton, mais aussi ailleurs en Suisse. Le butin est constitué entre autres d'argent en espèces, de cartes de crédit et d'appareils électroniques. Le montant total s'élève à 38 000 francs. La Confédération se serre la ceinture et le transport régional de voyageurs devrait aussi en faire les frais. Selon la consultation sur le crédit d'engagement pour la période 2026-2028, les entreprises de transport public pourraient ne pas obtenir l'enveloppe espérée. Le dépassement de 14 milliards de francs annoncé hier par l'Office fédéral des transports pour mettre en œuvre l'offre ferroviaire 2035 n'arrange rien. Ouest Rail, qui tenait son 20e colloque ce vendredi à La Chaux-de-Fonds, a déjà fait part de son inquiétude pour l'avenir du rail en Suisse romande. L'association demande une contre-expertise. Explication avec son président, le Neuchâtelois Damien Cottier.
Oui, il faut qu'on aille vraiment regarder dans le détail de ces chiffres. C'est quand même pas normal que les estimations aient doublé. Pour des projets ferroviaires, on voit une augmentation des prix depuis 20 ans avec des chiffres qui sont parfois x4, x5, x6. Et il faut vraiment véritablement qu'on aille voir, un, si les chiffres sont solides, si les estimations sont les bonnes ou si les prix ont été au fond gonflés, peut-être par prudence. Et deuxièmement, il faut qu'on aille voir les processus, pour voir si les processus actuels, les normes légales, les normes qui sont aussi ajoutées au niveau technique de plus en plus sur les projets, ne renchérissent pas excessivement les coûts des travaux. Et finalement, on veut faire le luxe du luxe, mais on peut plus le payer. Et ça, c'est véritablement quelque chose sur lequel on doit travailler.
Des propos recueillis par Claire Viget. Plus d'Elon Musk et moins de bureaucratie fédérale. C'est la formule choc lancée aujourd'hui à Berne par le président de l'UDC, Marcel Dettling. L'UDC a livré ses recettes pour assainir les finances fédérales. Il faut consacrer les moyens à disposition aux tâches pour les Suisses, armée et agriculture en premier, et surtout stopper l'explosion des dépenses dans d'autres domaines. Alors lesquels ? Le conseiller national UDC jurassien Thomas Stettler, membre de la commission des finances.
On a l'administration qui gonfle complètement, ça dérange. C'est un système additionnel où on ne se remet pas en question. L'administration a un accroissement beaucoup plus grand que l'accroissement économique suisse. On doit absolument freiner ça. La population suisse est laissée pour compte. C'est le sentiment qui est là. Et c'est vrai qu'en quelques heures, on ficelle des paquets pour l'Ukraine, on organise des choses pour l'asile. Les gens se disent, non mais d'abord, on aimerait qu'on s'occupe des Suisses ici, enfin des gens qui habitent ce pays, parce qu'on a des soucis, on a des infrastructures à maintenir et tout ça. Et ça, c'est essentiel. Avant de vouloir sauver le monde, on a des possibilités d'aider à l'extérieur, mais elles ne sont pas infinies.
Les cibles pour faire des économies selon l'UDC, l'administration, l'asile, la coopération internationale et la culture. Aider les personnes adoptées illégalement à rechercher leurs origines. Telle est la mission d'une toute nouvelle plateforme créée par les cantons en Suisse. Les adoptions internationales irrégulières ont été faites de 1970 à 1990. Les personnes concernées auront donc l'aide commune des cantons pour rechercher leurs origines. 14 cantons ont décidé de se doter de cette structure.
18h11 sur RJB.
Sport. Le FC Bienne de retour à la réalité après une première partie de championnat de haute volée. Les footballeurs célandais se sont lourdement inclinés 5-1 à Delémont hier soir dans le derby pour leur dernier match de Promotion League de l'année. Ils sont passés complètement à côté de leur rencontre, mais pointent néanmoins au sommet du classement à la trêve. Le bilan aurait pu être royal, mais le revers d'hier à Delémont a rappelé que rien n'était encore acquis. Le président du FC Bienne, Dietmar Fess, a pleinement confiance en son effectif pour ce printemps, mais il ne ferme pas la porte à de nouveaux arrivants pour autant.
Si on peut trouver la bonne personne, la perle que tout le monde cherche, on va la prendre. Si c'est abordable pour nous, parce que c'est toujours aussi une question des finances. Puis maintenant, on va jouer dans la coupe. Si on peut se qualifier, voilà, peut-être on va tomber sur un poids lourd. On va jouer peut-être contre Young Boys ou contre Zurich ou contre Bâle. Là, on sait qu'on va avoir des recettes supplémentaires. Ça va nous permettre peut-être de encore dépenser un peu d'argent pour chercher un ou deux nouveaux joueurs, pour compléter l'équipe. Et puis voilà, si on perd, si on joue comme ce soir, j'ai aussi peur qu'on va perdre contre Langenthal. Voilà, après, il faut se contenter avec l'effectif qu'on a, mais on a aussi vu que cet effectif est capable de jouer pour la première place. Des fois, il y a des journées noires. Mais j'espère que voilà, c'était la dernière et l'unique journée noire de cette saison.
Et comme le dit le président du club, il reste encore un match au FC Bienne avant la trêve. Le 8e de finale de Coupe de Suisse, mardi à Langenthal. Un derby pour confirmer son regain de forme. Le HC Bienne accueille Berne ce soir à 19h45 à la Tissot Arena. C'est dans le championnat de National League d'hockey sur glace. Les Célandais ont retrouvé la victoire mardi contre Lausanne après un passage à vide. Ils vont vouloir enchaîner pour reprendre confiance, mais ça ne sera pas chose aisée face à l'ours bernois qui est en bonne forme en ce moment. Bienne-Berne, c'est une rencontre à vivre en direct sur RJB dès 19h30 avec les commentaires de Raphaël Chalvera. Elle s'appelle Madly, c'est un chiot Saint-Bernard et c'est la nouvelle mascotte de l'Euro féminin qui se déroulera en Suisse en juillet 2025. Madly a été dévoilée ce matin dans le hall de la gare Cornavin à Genève devant une nuée d'enfants excités. Son nom est un hommage à Madeleine Boll, une des pionnières du foot féminin en Suisse. La Valaisanne avait été la première femme à prendre une licence en 1964 et ce clin d'œil l'a forcément touchée. On l'écoute, Madeleine Boll.
Je ne m'y attendais pas quand on m'a posé la question, ça m'a surpris. Mais honnêtement, je peux dire que je suis très fière parce que c'est un sacré cadeau qu'on me fait. Mon histoire a débuté il y a 60 ans et 60 ans après, on m'offre la possibilité de reconnaître tout le parcours de ces soixantaines d'années. Moi, c'est génial pour moi. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout de... Le football féminin n'existait pas, ou peu, ça commençait. Et puis aujourd'hui, ben, vous êtes là et à la presse, les matchs de l'équipe nationale, ça passe à la télé. Quand moi, j'ai commencé, j'ai eu des parents, je dirais géniaux, c'est pas parce qu'ils sont plus là, je dis ça, mais sérieusement, ils m'ont laissé jouer, alors que j'avais des copines de classe qui jouaient comme moi au football, et leurs parents ont dit non, non, tu fais autre chose, mais tu ne fais pas du football.
Propos recueillis par Benoît Rouchalot de OneFM. Prochaine étape pour l'Euro féminin, le tirage au sort de la phase finale le 16 décembre. Merci de nous avoir suivis, très belle soirée à vous.